Bienvenue à Montréal. Ici Patrick au micro. Donc oui, encore une fois, cette semaine, nous allons manger de la poutine et cette fois-ci avec une dame qui se nomme Marion Esquian. Marion est actuellement conceptrice de jeux chez Tribute Games à Montréal. Elle a travaillé très récemment sur Flint Hook. Elle travaille actuellement sur un projet ultra secret. Donc, au-delà de ça, sur le front professionnel, qu'est-ce qui est intéressant, à mon avis, de Marion, et j'ai hâte de discuter, c'est vraiment qu'elle vient du domaine du design interactif traditionnel. Donc, elle a fait son lot d'applications, de sites web, mais j'ai l'impression qu'elle avait vraiment envie de faire du jeu. Donc, oui, ensuite, elle a commencé à faire du travail d'expérience utilisateur. Soit 100%, tu travailles d'expérience utilisateur, c'est souvent dresser les menus dans un jeu, travailler sur le placement des boutons, comment que l'information est affichée. Donc, elle a fait ça pour un bout, notamment chez Juicy Beast à Montréal. Donc, ça a été sa première expérience de développement de jeu. Et ensuite, elle s'est bâtie vraiment une réputation dans le milieu montréalais, dans cet espace-là. Et comme on l'a mentionné, je l'ai sous-entendu tantôt, elle a ensuite passé chez Tribute pour ensuite faire de la conception de jeu. Un autre aspect très intéressant du côté de Marion, c'est son engagement. Donc, elle fait partie notamment de Pixels à Montréal, qui est une organisation qui fait la promotion des femmes en développement de jeux. Donc, souvent, l'organisation, qu'est-ce qu'elle offre notamment? C'est des ateliers pour amener des femmes à développer des jeux de leur côté et peut-être potentiellement se trouver une carrière. Donc, je suis vraiment curieux de savoir comment elle vit cette passion-là à l'extérieur du travail et comment potentiellement elle pourrait ramener cette passion-là dans son travail. Donc, ça risque d'être très intéressant. Finalement, si vous fouillez dans les médias sociaux de Marion, vous allez vous rendre compte que côté artistique, côté visuel, elle a vraiment une signature assez distinctive. Elle semble vraiment passionnée par tout ce qui est culture populaire japonaise, tout ça. Donc, pour sûr, je vais essayer d'en discuter avec pour voir, encore une fois, d'où est-ce que ça vient. Sur ce, je dois vous avouer que le niveau de calories est très bas dans mon organisme. Je commence à avoir faim. Je crois que je vais prendre mon sac, prendre un métro et aller au Hippie Poutine. Bon, on est déjà rendu au Hippie Poutine et quelle coïncidence, ma foi, Marion est là. Est-ce que ça va, Marion?
Oui, très bien, et toi?
Très bien, très bien. Bon, justement, tu étais lancée sur la vérification du menu. Qu'est-ce que tu vois à date là, qui pourrait t'intéresser?
Alors, je sais pas. En tant que bonne Française, je repère la Bretagne parce qu'il y a des champignons et des oignons caramélisés et de la béchamel. Comme.
Ben, d'ailleurs, c'est une question pour toi. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup traîné en France à date, je dois l'avouer.
Okay.
Est-ce que c'est une vision cliché de la France actuellement, la Bretagne, ou t'aurais tendance à croire que c'est quand même assez authentique?
Ça dépend. Je suis pas vraiment bretonne. Okay. Comme. Je viens de Nantes. J'ai étudié longtemps à Nantes. Et surtout, Nantes, il y a comme un gros débat de savoir si Nantes fait partie de la Bretagne ou pas. Okay. Il y a des gens qui font des manifestations pour savoir si Nantes fait partie de la Bretagne
ou pas. Purée, à ce point-là, OK, c'est
oui,
tendu.
C'est vraiment incroyable. Mais non, je sais pas. C'est vrai qu'il y a vraiment l'image cliché de la ouais. Bretagne en tant que telle, mais...
Et ça veut dire des champignons caramélisés, non?
Non, je sais pas. Je suis pas sûre pourquoi ça s'appelle une Bretagne, en fait.
OK.
Et en tout cas, elle a l'air bonne.
OK, très bien.
Je pense que je vais vraiment y aller avec celle-là. La chinoise a l'air bonne aussi, remarque.
Mm-hmm.
Avec poulet mariné, légumes grillés, ananas, sauce agrodouce. OK, je vais peut-être y aller avec
toi,
la chinoise.
En termes de ligne de poutine, normalement, es-tu vraiment dans la viande, pas vraiment de viande? C'est quoi tes écoles de pensée, là?
Je sais pas, je connais pas encore trop de poutine. Là, comme okay. Moi, on m'a dit que la vraie poutine, il n'y a pas de viande dedans.
Effectivement.
Là. Comme les frites et la sauce suffisent à eux-mêmes avec le fromage qui fait squeak squeak.
Oui, exactement. Non, effectivement, c'est grande ligne. Mais j'étais curieux de savoir si tu avais déjà comme une position de dire « OK, oui, la poutine d'abord, c'est ça, mais éventuellement, j'aimerais tendre vers ça ou non? »
Non, je suis ouverte à toutes les découvertes. Là,
OK, comme, c'est très bien.
Je pense que la meilleure poutine que j'ai goûtée, c'était...
Oui, je t'en prie.
Ah.
Oui. c'est bon?
Oh, oui, pas trop, pas trop. Okay. Oui, bien sûr. Ça roule.
Oui, pour moi, ce serait une chinoise. Ouais, une poutine chinoise.
Quelle taille?
Est-ce que la normale est déjà bien grande? Ou... Ouais. Amener les assiettes des gens.
Voici la mini, voici la médium. Je pense de mon côté, je vais y aller avec la Prague qui a quand même du bacon dedans. Faut que j'affirme mon identité québécoise. Mais qui n'est pas non plus la totale. C'est, on met de la saucisse, on met du bœuf. Non, c'est une présence affirmée, mais pas totale non plus. Là, parce que, bon.
C'est bien, c'est bien. Et je pense que je vais y aller avec la petite. Alors.
Ouais. Moi, ça va être la Prague dans la normale, s'il te plaît. On va procéder, Marion. Donc, d'abord, peut-être la question que j'ai pour toi, considérant que tu travailles dans le jeu vidéo maintenant, c'est quelles sont tes bases en jeu vidéo? Depuis quand tu joues à des jeux vidéo? Est-ce qu'il y a des titres qui t'ont vraiment marqué?
Ah oh, oui, ben, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis toute petite. J'ai un grand frère qui s'appelle Quentin qui m'a appris à jouer aux jeux vidéo depuis que je suis petite. Quand c'était pas moi qui jouais, c'était lui qui jouait, je le regardais, comme je trouvais ça vraiment fascinant. Comme de nombreuses personnes, je suis très, très fan de la série Final Fantasy.
OK.
Mon jeu préféré, c'est le Final Fantasy VII, parce que c'est vraiment un des premiers jeux qui a marqué mon enfance, que j'ai joué en entier. Je pense que j'ai joué plus de 100 heures à ce jeu-là, et puis ça a déclenché un amour de Final Fantasy en moi, et puis maintenant, j'ai comme une énorme collection de jeux Final Fantasy. Je suis allée rapidement au Japon, et puis j'ai ramené comme... J'ai ramené tellement de jeux Final Fantasy et de figurines que j'ai dû m'envoyer un colis par la poste.
Non, c'est compréhensible et j'ai cru comprendre qu'au Japon, ils ont compris que c'est un succès Final Fantasy, donc il y en a beaucoup des spin-offs, des figurines, des ci et des
oui,
ça.
Oui, il y a vraiment beaucoup de choix et puis eux aussi, dès que c'est un tout petit peu usagé, c'est vraiment pas cher.
Oui, effectivement.
Donc, il va y avoir des Final Fantasy 7 comme la version PlayStation 1 qui va être disponible à peut-être 7$.
Non seulement, je sais pas si c'était la même chose de ton côté, moi, qu'est-ce qui m'avait frappé là-bas, moi, j'avais acheté beaucoup de Super Famicom là-bas.
Okay.
Puis tout était propre, c'était
oui,
malade
c'est
mental.
C'est incroyable. Mm. Ce qui est très drôle aussi, c'est qu'il n'y a pas le droit de fumer dans la rue, donc ça fait qu'il y a zéro mégot dehors, mm-hmm. Mais tu as le droit de fumer dans les restaurants. Ça, c'est assez étonnant. Mais en tout cas.
Effectivement. Ben, parlant de Japon, tu as été où au Japon, par curiosité?
Ah, j'étais allée juste à Tokyo pendant okay. Comme une dizaine de jours à peu près.
Quand même.
C'était vraiment... Juste du tourisme.
Justement, au niveau de Tokyo, qu'est-ce qui t'avait marqué en termes de quartier? Bon, Akihabara, probablement, qui a
oui,
été une grande
oh
visite
God.
Au-delà de ça. Mais parle-moi de ça.
Mais Akihabara, c'est comme, c'est juste une explosion de jeux vidéo, de couleurs, de sons, de bruit, de mouvements. Comme... Je pense ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment comme les tours de 10 étages de jeux d'arcade. Là, la tour Taito et la tour Sega, où c'est vraiment juste des bandes d'arcade pendant 10 étages.
Mm-hmm.
Comme... Il y avait des bandes d'arcade, je me souviens, c'était juste... On savait absolument pas comment jouer, parce que c'était tout expliqué en japonais, forcément, mais t'avais comme deux claviers d'ordinateur,
okay.
Tout en japonais, donc t'es comme... Non... Mais sinon, t'avais des choses un peu plus simples, plus drôles, là. C'était comme... Il y avait une arcade, c'était juste... Fallait que tu fasses un table flip.
Ah oui, j'en avais entendu parler.
T'as, t'as, t'as une table en plastique et puis t'as juste comme une espèce d'histoire qui joue et puis à un moment, tu dois avoir l'air super fâché à la fin et puis il faut que tu fasses flipper la table et puis comme plus c'est fort, plus tu gagnes des points et puis en tout cas. Mais c'est ça, il y avait comme vraiment plein de choix. Comme, j'étais vraiment fan de... Peut-être tu connais la série Taiko no Tatsujin.
Non, ça,
C'est des jeux de tambour.
OK, oui.
Okay. Ils sont super mignons comme toute la... En tout cas, toute la communication visuelle de ce jeu-là est incroyable et vraiment mignonne. Et le jeu, c'est vraiment très, très rapide. Et il y avait des gens qui jouaient à ça, c'était impressionnant.
Non, c'est comme la Dance Dance Revolution, il y a 15 ans, tu voyais les Japonais aller, puis ça faisait peur, là.
Oui, c'est triste d'ailleurs que cette mode est passée, parce que j'aime vraiment ce jeu-là. Puis il n'y en a pas assez, même à Montréal, c'est presque impossible de trouver des bandes de ça. Je pense qu'il y a une place qui a une bande DDR, mais c'est tout.
Non, effectivement, il y a un bout de temps, ben même au Québec, il y en avait beaucoup. Moi, j'avais été pendant un bout dans la région de Québec, et ensuite, j'ai passé à la région de Montréal. Puis dans le temps, il y en avait beaucoup. C'est juste que, comme tous les jeux de musique, apparemment, ça baissait en faveur. Puis
oui,
bon,
c'est dommage, parce que c'est tellement de bons jeux. Là.
Absolument. Mm. Sinon, là, d'autres choses au Japon, y a-tu d'autres affaires que tu avais marquées?
Ce que j'avais vraiment trouvé très intéressant, c'est que... Dans un même quartier, tu pouvais avoir comme un grand bâtiment qui était comme très, très neuf et puis comme peut-être un immeuble de 10 étages. Et puis juste à côté, tu vas avoir comme un petit temple bouddhiste.
Oui.
Puis c'est juste normal. Comme, des fois, tu vas avoir des moines qui se promènent, mais comme dans la rue sur Shibuya, c'est comme... Ouais. Et c'est vrai qu'en parlant de style vestimentaire, c'était vraiment comme très fort. En plus, quand j'étais allée, c'était la Tokyo Fashion Week.
OK.
Donc, il y avait vraiment beaucoup de gens qui sortaient avec leurs habits les plus fous. Apparemment, il y a quelqu'un qui est super connu, qui sort là-bas, et puis que moi, j'avais trouvé vraiment intriguant, et puis que d'autres gens qui étaient allés à Tokyo m'ont aussi parlé de lui. Tout le monde le voit. C'est un petit monsieur, c'est un vieux monsieur, là, qui a comme une longue barbe blanche, et puis il a des aquariums comme, autour de lui. Comme, il a une grande robe avec plein d'aquariums dedans, et puis des poissons dedans, puis sur la tête. Et c'est comme, il s'habille à chaque année pour la Fashion Week comme ça. Donc, il se fait remarquer.
Sais-tu qu'est-ce qui arrive aux poissons l'année d'après? Ou...
Je sais pas si c'est les mêmes à chaque année, par exemple, mais en tout cas, ils se baladent. Ça doit être agréable.
Cool. Si on en vient aux jeux vidéo, bon, t'avais dit Final Fantasy VII, oui. T'as vraiment marqué. Serais-tu capable de mettre le doigt sur la raison en quoi ce jeu-là t'a marqué?
Ben, les JRPG en général. Okay. Comme... Je sais pas si aujourd'hui, si je découvrais aujourd'hui Final Fantasy VII pour la première fois, j'aurais la patience du tutoriel et des dialogues. Mais c'est vrai que pour le jeune enfant que j'étais, c'était vraiment intéressant. Et puis, c'est des dialogues très enfantins quand on y repense. Et puis, c'est tellement riche. Il y a tellement de choses différentes que tu peux faire dans ce jeu-là. Il y a tellement de choses que tu peux faire dans ce jeu-là que c'est vraiment infini, les possibilités. Là, comme... Si tu veux faire le jeu d'un seul coup, ça met juste quelques dizaines d'heures. Mais si vraiment tu veux prendre le temps d'avoir le chocobo d'or et puis de faire des courses, puis d'aller gagner des tickets au Golden Soccer... comme tu peux faire vraiment plein de choses. Et je pense que c'est ça qu'on aimait dans ce jeu-là, c'est qu'il y avait tellement de choses possibles que tu pouvais faire. C'était tellement ouvert et libre que c'était vraiment comme très, très nouveau, je pense, quand Final Fantasy est sorti. Et ce qui était très, très attirant dans Final Fantasy, c'était les cinématiques.
Oui, absolument.
Qui étaient vraiment belles. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a perdu un peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les jeux sont juste beaux tout le temps.
Oui, mon tête.
Oui, c'est ça.
C'est chiant.
Les premiers Final Fantasy jusqu'au 10-10-2, là, comme... Il y avait vraiment cet aspect de t'es récompensé d'avoir fait le jeu par une belle cinématique. Là. Puis c'était vraiment beau, c'était vraiment nice à regarder. Puis je suis presque triste qu'aujourd'hui les jeux soient trop beaux, donc c'est comme juste beau tout le temps. Là. Mais c'est vrai que Final Fantasy VII, c'était tu jouais surtout pour voir les cinématiques. Je me souviens, j'avais comme plein de sauvegardes différentes parce qu'à chaque fois, je gardais ma sauvegarde pour revoir la cinématique plus tard. Mais non, c'était vraiment fun pour ça.
Et au-delà de Final Fantasy VII, est-ce qu'il y avait d'autres jeux qui t'avaient marqué pour d'autres raisons?
Ben, en fait, moi, quand j'étais petite, je pense que la première console que j'ai eue, c'était la NES de Nintendo. Donc, je pense que le jeu que j'avais le plus joué avec mon frère, c'était Blue Shadow.
Qui consiste en quoi?
C'est un jeu de ninja, mais Blue Shadow, c'est le nom européen. Okay. Le nom ici, c'est Shadow of the Ninja.
OK, oui.
Ça ressemble à Ninja Gaiden. C'est comme, c'est des ninjas, et puis c'est un jeu vraiment trop difficile. Que j'étais absolument pas capable de jouer, mais que je jouais avec mon frère, donc je mourais rapidement et puis je regardais vers la suite.
Donc, il t'a marqué, mais vraiment pas de la bonne manière.
Mais non, parce que j'ai quand même un très bon souvenir de ce jeu-là, parce qu'il était vraiment très beau et la musique est incroyable dans ce jeu-là. C'était... Non, et puis c'était aussi rare à ce moment-là, comme des jeux qui étaient vraiment multijoueurs, mais qu'on jouait ensemble. Parce qu'on avait aussi le premier Super Mario, mais quand tu joues à deux, tu joues chacun ton tour. J'allais dire Ninja Gaiden. Mais Blue Shadow, tu joues vraiment comme les deux en même temps, et puis c'est nice. Et puis c'est une fille ninja. Comme, juste pour ça, j'étais vraiment contente, parce que...
J'ai tendance à dire que c'est encore trop rare à mon goût maintenant, mais nous allons continuer sur une autre tangente.
Exact.
Bon, justement, bon, t'as été élevé dans les jeux, t'as aimé certains jeux. Final Fantasy VII t'a marqué pour de grandes raisons. Éventuellement, fut un moment que, bon, tu grandis, il faut que tu sois responsable, il faut que tu ailles à l'école.
Oui.
Apparemment, t'as été en design, en graphisme. Pourrais-tu parler un peu de ce processus-là?
Je suis allée dans une école de design qui s'appelle l'école de design.
Ma foi, ils se sont cassés
c'est
la tête.
C'est bien trouvé.
Un bon vieux code de la forme qui adopte la fonction.
Mais pour eux, c'est super intelligent parce que tu cherches école de design sur Internet, là, tu tombes sur leur site directement parce que c'est le nom de l'école.
Il y en a là-dedans.
N'est-ce pas? Et en fait, dans cette école de design-là, je me suis spécialisée en design d'interactivité et par la suite en réalité virtuelle.
OK.
Donc, c'était vraiment comme quelque chose de plus technique. Et j'ai vraiment plus appris à comme faire de l'expérience utilisateur, faire de l'interface utilisateur. C'était pas forcément du jeu vidéo, mais je m'arrangeais pour comme twister mes jeux vers du ludique.
Est-ce que c'était une cible pour toi d'aller vers le jeu vidéo éventuellement, ou c'est juste que tu avais une préférence parce que tu avais baigné dans ce médium-là avant?
Ouais, c'était un peu ça. Comme je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais faire des jeux, mais que je pensais pas que j'étais capable d'en faire à l'époque.
Okay.
Ça me paraissait vraiment lointain. Et puis... La réalité aussi, c'est que mes parents étaient comme, mais non, tu vas pas faire des jeux, tu vas devenir pauvre et vivre dans la rue. Mais non, c'est ça, comme, je suis allée en école de design, et puis j'ai comme fait un twist, parce qu'au début, mes parents pensaient que j'allais faire du design produit, et puis j'ai découvert quelque chose qui pouvait ressembler à du design de jeu, donc j'étais comme, oh, design interactif, ça a l'air nice, et je suis partie là-dedans. Et non, c'est ça, c'était vraiment plus basé sur l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur, comme... comment faciliter l'utilisation et comment rendre ça le plus simple possible à comprendre. Mm-hmm. Et c'était pas forcément des jeux, c'était vraiment plus...
Oh, ma poêle, la poutine est déjà arrivée?
Oui. Oh, nice. J'ai bien fait de prendre une petite. Merci.
Un gros merci.
Merci beaucoup. Merci. Donc, en fait, le concept de la plupart de nos projets, c'était vraiment trouver un problème et trouver le moyen de régler ce problème-là. Donc, en général, ça fonctionnait soit avec des sites Internet, soit avec des applications mobiles ou quoi. Et moi, je m'amusais tout le temps à rajouter une petite twist ludique pour essayer de rajouter du fun à ça, sans pour autant faire du jeu sérieux, le serious game, qui est vraiment très, très difficile à rendre intéressant. J'ai fait une grosse partie de mes études à étudier le serious game. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est... très peu utilisé ou très mal utilisé. Et je pense que j'ai même pas de bon exemple de serious game à donner. Comme c'est quand même très rare des choses qui fonctionnent bien et puis qui donnent envie d'apprendre par le jeu. C'est un piège. Mais non, c'est ça.
Est-ce que c'est justement à cause de cette contradiction-là entre l'apprentissage et le divertissement? C'est comme deux besoins différents et ça peut pas travailler ensemble? Ça vient d'où, ça?
Ça peut sûrement travailler ensemble, mais je pense qu'il n'y a pas de bons studios de jeux qui prennent le temps de faire ça.
OK. Et les gens qui font du jeu sérieux sans avoir fait du développement de jeu régulier ne comprennent pas ce qui marche dans le jeu vidéo, probablement? Ou...
Exactement. Ben, à Montréal, en fait, je viens de dire que j'en connaissais pas, mais il y a Affordance qui fait beaucoup
Absolument.
De jeux sérieux.
Oui.
Et qui ont des très bons exemples de jeux sérieux. Mais c'est vrai qu'en France, quand j'ai cherché que je faisais mes études là-dedans, j'en ai trouvé très peu. Et puis pourtant, c'est des buts super nobles. C'est comme des jeux pour t'apprendre à faire du recyclage correctement, pour t'apprendre à faire des maths. Il y a même une école qui a ouvert où c'est vraiment le concept, c'est de juste apprendre par des jeux. Et je me souviens pas du nom de l'école, mais c'était quand même un concept super intéressant. Mais je sais pas à quel point ça a fonctionné. En tout cas.
Sur ce, la poutine est devant nous. On parle d'affaires sérieuses, mais c'est important de manger des fois, donc on va prendre une petite pause et on va continuer ensuite. Donc, Marion, tu digères actuellement?
Oui, je digère ma poutine chinoise qui était vraiment bonne.
Oui?
Non, c'était super bon. C'était poulet avec ananas et j'aime beaucoup le sucré salé.
OK.
Donc, je suis très contente de mon choix.
Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu as trouvé? Comment tu as trouvé les frites, ainsi de suite? Est-ce que ça, justement, ça correspond à ta vision de la poutine ou tu aurais aimé ça?
Je pense qu'il y avait un peu trop de sauce.
Oui.
Là, j'ai comme pas terminé parce qu'il y a vraiment trop de sauce.
Okay.
Mais c'était très bon, donc j'ai eu du plaisir pour ce que j'ai mangé.
Très bien. Donc, encore une autre belle recommandation pour ceux et celles qui sont intéressés par de la poutine. On va parler de toi à nouveau, ça te fait rien?
OK.
Ou juste pas au
lieu. On va parler de toi.
Ça, oui, ouais. Non, aujourd'hui, on s'est centré autour de toi, voilà.
OK.
Bon, justement, vers la fin, on avait mentionné que tu avais commencé, bon, en étudiant en expérience utilisateur. Le programme que tu avais, c'était très orienté à expérience utilisateur, mais tu essayais de rentrer un petit peu de jeux vidéo là-dedans.
Exact.
J'ai fouillé un peu dans ta page LinkedIn aujourd'hui pour avoir l'air un semblant professionnel. Puis bon, effectivement, au début, tu as fait des mandats d'expérience utilisateur, je pense, du côté de la France d'abord. Puis ensuite, tu es venu à Montréal pour en faire, mais plus du côté du jeu, justement.
Exactement.
Pourrais-tu parler de ce processus-là?
En fait, en France, j'ai vraiment juste étudié ça.
Okay.
Et après, pour finir mon école en France, je suis venue faire un stage à Montréal, à Jesse Beast,
mm-hmm.
justement.
Oui.
Et là, j'ai vraiment fait du UI et du UX.
Mm-hmm.
Mais c'est tellement une petite entreprise qu'au final, c'est facile de toucher à tout. Là. C'est juste quatre bonhommes et puis quand même forcément...
C'est juste ça. Je suis sûr que les gars vont apprécier d'entendre ça.
Mais non, c'est quatre très belles personnes incroyables qui font des beaux jeux. Mais en tout cas, c'est ça. C'est quand même tellement petit, intime que forcément, c'est très facile de juste un peu faire de chaque domaine. Il y avait même une game jam, j'avais fait du son.
Oui.
Mais non, c'est ça. C'est comme... Le UX est vraiment un élément que je trouve super important dans le jeu vidéo parce que c'est vraiment, ça guide l'expérience du joueur et puis ça permet de juste comme être sûr qu'il va faire ce que tu veux faire et puis qu'il va pas juste se perdre dans les menus, dans le néant des menus. Et c'est ça, comme parfois je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on fait pas assez en jeu vidéo et qu'on on n'accorde pas assez de temps à travailler là-dessus. De voir que Justivist était comme vraiment intéressé à me prendre en stage et puis à me laisser travailler là-dessus, c'était vraiment super enrichissant. Quand j'y étais, j'ai travaillé sur la fin de Nightmare Tower, qui était sur le point de sortir sur Ouya à l'époque.
Oh boy, oui, cette console-là, c'est vrai.
Ça existait. Et après, j'ai travaillé beaucoup sur Total Temple. Là, le travail que Johan a fait à la fin avec le UI, c'est extraordinaire. Là. C'est vraiment comme... Il a fait jouer le joueur dans le menu. Mm-hmm. Donc, ça fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de tutoriel, puisque pour sélectionner ton joueur et pour lancer la partie, il faut que tu fasses jouer le joueur. Mm-hmm. Donc, techniquement, si tu as réussi à lancer la partie, tu sais déjà comment jouer.
Oui, non, c'est ça, c'est super
donc,
élégant comme solution.
C'était vraiment bien, bien trouvé. Là. Et puis, c'est ça, c'est comme un exemple de super bon UX design, d'après moi.
Mm-hmm. Justement, c'est attribuable à quoi, à ton avis, cette espèce... J'allais dire adversion, mais c'est pas vrai. C'est un peu fort comme terme, cette espèce de négligence du UX dans le domaine du jeu, parce qu'on a maintenant des téléphones que, bon, ça marche bien à cause d'un très bon UX. Pourquoi en jeu, on est encore réticent à vouloir mettre du temps et de l'amour là-dedans?
Je pense que les gens n'étaient pas habitués à avoir du UX dans la production. Et comme jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionnait quand même, je pense que les gens ne sont pas habitués à rajouter comme une étape dans la production qui est vraiment consacrée au UX.
C'est quand même intéressant parce que, comme tu l'as mentionné, je pense à des jeux, quand j'étais jeune, SimCity Institute, c'était des jeux côté interface, c'était vraiment intense, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de trucs à couvrir, mm-hmm. et de peine et de misère, ça fonctionnait. Mais c'est ça, je me demande pourquoi maintenant c'est difficile de mettre au moins autant d'amour pour ça, sinon plus, parce que là, moi, où je trouve ça déconcertant actuellement, c'est qu'on regarde qu'est-ce qui se fait du côté du mobile, qu'est-ce qui se fait du côté du web, on a maintenant des tablettes, ainsi de suite. C'est vraiment facile de prendre quelqu'un et faire comprendre ton application rapidement. Mm-hmm. Sauf en jeu vidéo, j'ai l'impression qu'on ne veut pas faire ça. Et à mon avis, c'est contre-intuitif parce que le jeu vidéo, par sa nature, est souvent beaucoup plus complexe que ces applications-là.
Oui, c'est ça. C'est comme juste faire comprendre aux joueurs comment jouer. Comme le tutoriel, c'est vraiment une partie super importante parce que c'est comme le début du jeu. Et puis, c'est encore trop rare de voir des tutoriels qui sont plus élégants que juste des gros pavés de texte et puis ton petit sidekick qui va faire « Hey, il faut faire ça! » Et puis ça marche comme ça. Il faut que t'appuies là. Et puis après, il faut faire ça.
Fais-tu des voix dans les jeux?
Non! Je devrais, c'est ça?
Je sais pas. Je dis ça de même.
Une bonne voix de sidekick. Mais non, c'est ça. Je trouve ça encore trop rare, les jeux qui mettent vraiment de l'effort dans leur tutoriel. Et puis c'est vraiment dommage parce que c'est comme une partie super importante du jeu. Là. C'est la partie qui te donne envie de te lancer dans le jeu ou pas.
Et ironiquement, tu regardes souvent, ces jeux-là sont très populaires, sont des grands succès. Je dis ça de
même. Hein? On parlait de Final Fantasy plus tôt. Là, c'est comme Final Fantasy, c'est comme le pire exemple de tutoriel. Là, comme j'ai joué au 15 il y a quelques mois, là, et puis c'est une horreur, le tutoriel. Comme il est interminable, et j'ai vraiment regretté d'avoir mis « oui, je veux voir le tutoriel et pas skip », parce que au final, t'apprends presque rien, mais t'as perdu genre... au moins 20 minutes de ta vie, juste avoir un petit renard qui te parle et puis qui te dit des choses que tu sais déjà parce que c'est comme vraiment des choses super basiques que n'importe qui a déjà joué à un RPG comme peut déjà savoir.
Mais point intéressant, justement, vu que tu as mentionné le fait que tu as été au Japon récemment, je sais pas si tu avais eu la chance ou la malchance d'utiliser des interfaces au Japon, mais j'ai le sentiment aussi que le Japon a peut-être un petit retard par rapport à l'Occident côté expérience utilisateur. Parce que moi, les sites web, j'ai eu affaire ici et là, puis... c'est compliqué, c'est dur.
Ah oui, les sites web japonais. Ben, je suis allée au Japon il y a comme... oh my God, déjà 6 ans. C'était il y a longtemps, là. Mais même, comme, tu peux voir les sites japonais d'ici, là, comme...
au-delà du fait que, oui, effectivement, les caractères sont différents de nous, ça, oui, on la comprend,
oui,
cette partie-là,
mais... oui, c'est ça, mais c'est quand même une explosion d'informations, de couleurs, de caractères le plus serré possible, le plus petit possible, et... C'est fou tout ce qu'ils ont à dire.
Oui.
Je sais pas comment c'est possible de mettre autant de texte sur une page, là, mais juste un shop, parce que des fois, je veux acheter des choses qui viennent du Japon, puis comme il n'y a pas de version anglaise, donc j'essaie comme de deviner le japonais.
Oui.
Puis il y a tellement d'options différentes de texte que c'est vraiment difficile.
Non, c'est un truc que j'avais trouvé fort intriguant là-bas. Je me disais, à un certain niveau, c'est un des peuples les plus avancés au monde d'une perspective technologique.
Oui.
Côté graphisme, je les trouve fantastiques. Mais bordel, ils sont pas capables de faire un site web où tu peux acheter des bananes, je sais pas quoi. Sans rien comprendre.
Ben, c'est sûrement parce qu'ils en ont pas besoin, donc ils s'embêtent pas à travailler trop fort dessus.
Mais si on ramène ça aux jeux vidéo, je pense que c'est aussi à cause de ça en jeu vidéo, c'est qu'on n'a pas été habitué à mieux, donc actuellement, c'est le statu quo, c'est correct. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que les gens sont réticents à mettre du temps et de l'amour là-dedans.
Mais je trouve qu'en général, les studios indépendants mettent peut-être plus d'efforts dans l'UX. Parce que justement, aujourd'hui, quand t'es indépendant, comme, faut vraiment que tu fasses un jeu parfait si tu veux sortir du lot. Donc, les gens font plus d'efforts là-dessus. Comme un jeu AAA, ils prennent pour acquis que c'est une grosse licence et que de toute façon, on va parler d'eux. Et peut-être les jeux indépendants font peut-être plus d'efforts là-dedans et puis ils vont chercher plus à avoir une belle expérience qui est facile à comprendre. Là, récemment, j'ai joué à Oxenfree. Mm-hmm. J'ai fini pour la quatrième fois hier. Il y a trop de fins différentes, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que ça, c'est juste, t'as comme trois boutons et puis ça joue tout seul et c'est vraiment intuitif et puis c'était une super expérience. Au point que j'ai joué quatre fois.
Oh oui, non, absolument. Non, c'est très intéressant parce que bon, j'ai des discussions des fois avec des développeurs à Montréal. Si on regarde qu'est-ce qui se passe du côté du AAA, maintenant, tu as des modes single player, multiplayer, tu as des méta-jeux, tu as des micro-transactions. À mon avis, c'est particulièrement critique maintenant d'avoir un bon UX, sans quoi tu risques pas de rentabiliser ton projet à 220 millions. Je ne sais pas c'est exact. Quoi les budgets. Là.
Non, c'est vrai, c'est super important.
Sinon. Une affaire que j'ai aussi remarqué très intéressant de ta démarche, c'est que tu as fait vraiment beaucoup de game jam. D'où est-ce que ça vient, ça?
C'était une période où j'étais étudiante. En fait, j'ai fait mes études en design en France et j'ai complété par des études en jeux vidéo ici. Et quand t'es étudiante, t'as plein de temps. Donc, j'en ai profité pour faire plein de game jam. Et puis, c'était vraiment enrichissant parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. Et ça m'a permis de me construire un portfolio en même temps. Et il y a comme des jeux que j'ai fait qui étaient vraiment intéressants. Il y a une game jam que j'ai fait avec Juicy Beast. Qui s'appelle... le jeu s'appelait Gentleman Dispute.
Oui, absolument.
C'est deux gentlemen qui se disputent. Et puis, c'est très drôle. Il y a une physique très, très rigolote. Et puis, le but du jeu, c'est de faire tomber le chapeau de forme de l'autre gentleman. Et ce jeu avait comme fait son petit succès puisque PewDiePie l'avait testé dans une de ses vidéos avec sa copine. Et
quand
puis,
même.
Tristement, c'est un jeu gratuit, donc ça n'a absolument rien changé pour Juicy Beast. Mais c'était quand même nice de voir comme un jeu sur lequel tu as travaillé qui est aussi visible. Il y a un autre jeu que j'avais fait qui avait été visible. J'avais fait pendant la Toe Jam. C'est une game jam qui a lieu à Toronto. Ça s'appelait Sex Drive, Fruitical. Et ça, le concept du jeu, c'est tuer un fruit qui reçoit des sextos dans sa voiture et tu dois comme choisir la bonne réponse tout en évitant les gens sur la route pour conduire le plus loin possible. Et c'est ça, c'était vraiment bête et drôle. Et,
question indiscrète, d'où est-ce que ça vient, cette idée-là?
pas de moi. En fait, moi, j'ai quand même rajouté l'idée des fruits. À base, c'était des humains. Je trouvais ça quand même plus facile que ce soit drôle, c'était des fruits. Mais c'était un peu dans un mood années 80. En fait, j'étais en équipe avec Steve Goulet, qui travaille à Junkbox Studio.
Oui.
Et je pense que c'est lui qui avait eu cette idée-là.
Okay.
Et j'étais aussi avec John Axon pour le son et Julian Spillane pour programmation. C'est un dieu de la programmation, il est vraiment très très bon.
Cool.
Et je pense, dès le vendredi soir, il avait comme déjà presque fini le code, c'était ridicule. Et après, ils ont enregistré une chanson pour faire en fond de la musique, parce que Julian chante aussi. C'était assez incroyable. Et donc, c'est ça, comme. C'est plus. Je pense que l'idée venait plus de Steph, et puis on l'a comme twisté pour vraiment que ce soit vraiment très comique. Et puis, les sextos en tant que tels, c'est comme beaucoup de jeux de mots avec les fruits, qui venaient absolument pas de moi, parce que je suis très mauvaise en jeux de mots et encore plus en anglais, là. Mais non, c'est ça. Et pareil, on a comme un YouTuber assez connu, Markiplier, qui a joué à ce jeu-là. Et ce qui est super drôle avec les YouTubers, c'est que dès qu'il y a un YouTuber un peu connu qui fait une vidéo d'un jeu, t'as comme tous les fans de ce YouTuber-là qui veulent devenir YouTubers aussi, qui font aussi des vidéos sur ce jeu-là. Donc on avait comme des pages et des pages de gens qui jouaient à Sex Drive.
Wow!
C'était vraiment drôle de voir les gens envoyer des sextos de fruits, en tout cas. C'est ça.
Sinon, qu'est-ce que t'as retiré de ces expériences-là? Parce que bon, tu revenais assez fréquemment, puis j'ai regardé un petit peu la ligne de temps, j'ai l'impression que plus t'en faisais, plus tu t'es affirmé, puis plus t'as tendu vers l'industrie du jeu vidéo tranquillement, hein?
Ouais, ça permet aussi de construire ton portfolio, ça permet de construire un peu ton identité, puis ce que t'aimes faire comme jeu, de faire des expériences. Il y a une game jam que j'ai vraiment aimée, que j'ai fait avec ma meilleure amie Ludivine, qui s'appelle She Might Think.
Oui.
Ça, c'était une game jam qui, en fait, était un peu spéciale. C'est une game jam en ligne qui dure sur 3 mois. Le nom de la game jam, c'est A Game by Its Cover.
OK.
Le concept, c'est que... ça se base sur une exposition qui a lieu au Japon, qui s'appelle Family Case.
Okay.
Et ça, c'est une exposition où n'importe quel artiste, en fait, peut dessiner comme une fausse...
Étiquette de cartouche Famicom, c'est bien ça?
Exactement.
Oui, non, ça, c'est cool, oui.
C'est vraiment génial. Et puis, avec cette fausse étiquette, ils inventent comme un faux jeu. Et ce qu'ils font dans l'exposition, c'est qu'ils impriment l'étiquette, ils la collent sur une vraie Family Case, et puis ils font comme une exposition avec ça.
C'est cool.
C'est vraiment nice. Et donc, A Game by Its Cover, ils disent, choisis une des cases qui a été faite pour cette expo-là, et puis comme, fais un jeu à partir de ça. Ça dure sur 3 mois, donc c'est vraiment intéressant parce que contrairement au Game Jam de 48 heures, t'as vraiment plus de temps pour développer un jeu vraiment plus fini, vraiment plus comme polished. Et je me suis lancée là-dedans avec ma meilleure amie. Au final, la case qu'on a choisie, comme ça ressemble pas du tout. Comme, l'idée du jeu est totalement différente et puis le graphisme a rien à voir avec la cover, mais ça m'a inspirée.
Ah oui, hein?
Donc, ça fonctionne aussi. Et ça, c'était vraiment un jeu nice parce que on a fait un appartement avec 23 objets interactifs. T'as 7 femmes différentes qui peuvent se promener dans cet appartement-là et cliquer sur chacun de ces objets. C'est un point and click. Et l'idée, c'est que les filles vont comme avoir des pensées sur chacun de ces objets-là. Et ça te permet comme de découvrir ces personnages-là, sachant qu'elles ont toutes un physique très, très différent, avec des sages différents, des couleurs de peau différentes, des silhouettes différentes. Donc... C'est pour ça le titre « She Might Think », parce que l'idée, c'est que tu pourrais penser qu'elle pense ça, mais en fait, elle pense ça. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'était qu'on avait demandé à des vraies femmes de... On leur avait envoyé la liste des objets qu'on voulait rendre interactifs. Et on leur avait dit, comme, dites-nous ce que vous pensez de cet objet-là. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que, en tout cas, dites n'importe quoi qui vous passe par la tête quand vous voyez cet objet-là. Avec cette idée-là, on avait recueilli, je pense... 45 femmes à peu près qui nous avaient répondu pour chaque objet. Et on les a triées et puis on les a mis comme il y en avait, on les connaissait, donc on savait si leur physique ressemblait plus ou moins à comme les personnages qu'on avait créés. Et puis on a fait des groupes de réponses pour chacun de nos personnages et on a comme créé les caractères de nos personnages à partir de vraies réponses qu'on avait eues. Et ça, c'était vraiment incroyable. Plus avec le travail de Ludivine qui était comme vraiment... C'est une animatrice 2D. Et elle a vraiment fait un super beau travail au niveau du visuel. Donc, c'est vrai que ça faisait un beau petit projet à la fin. Comme je pense que c'est une de mes game jams que je suis le plus fière là, dans celle que j'ai faite. C'est ça, je pense. Ça a permis de m'affirmer sur ma personnalité, ce que j'aime faire.
Non, mais justement, parce que particulièrement, ce jeu-là, j'avais regardé, puis il était très typé, effectivement. C'est pas un jeu avec des explosions, mais
oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de fin non plus. Là, quand à chaque fois, tu t'attends à un score. Et puis, surtout les game jams, c'est très facile de faire des jeux d'arcade un peu pour les game jams. Parce que c'est ce qui est facile et rapide à faire. Donc, voilà, c'est vraiment un style différent. Et puis, je sais que je l'avais présenté. Et puis, il y a des gens qui sont plus traditionnels, qui sont ben là, j'ai fini. C'est quoi? Et puis, j'étais comme, oui, t'as fini. T'as découvert comme les 6 personnages. Puis, c'était nice, non? Mais c'est ça. Il y a des gens qui ont vraiment compris ça et puis qui ont vraiment apprécié ça et qui s'attendaient pas du tout à ça en testant le jeu. Et puis, il y en a d'autres qui ont peut-être un peu moins compris mon concept, mais... C'est correct aussi.
Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce concept-là? Est-ce que c'était justement la longueur de temps un petit peu plus longue qui t'a amené à dire « OK, non, cette fois-ci, on fait pas un motet du jeu d'arcade? »
Ouais, non, c'est ça. Le fait d'avoir un temps plus long pour faire un jeu, c'est sûr que ça motive à faire des principes un peu plus complexes. Et puis, après, ouais, la Family Cakes m'a quand même inspirée. C'était comme une Family Cakes avec plein de personnages dessus. Et puis, je pense qu'il parlait d'univers parallèle, donc je m'étais dit, ça serait drôle d'avoir comme des personnes différentes dans le même endroit. Puis finalement, dans mon jeu, c'est juste comme un appartement à visiter et puis des gens qui viennent le visiter. Genre. Mais en tout cas, c'est comme, je suis vraiment partie de cette image-là et puis j'ai écrit, et puis je me suis dit, ça serait vraiment nice quand même d'avoir un jeu qui parle des femmes et puis qui montre qu'on n'est pas toutes pareilles et puis qu'on pense pas toutes pareilles et puis que c'est pas parce que quelqu'un a une physique comme ça qu'il pense ceci. Et je trouvais ça d'autant plus nice que j'ai quand même vraiment fait coller ça comme des vrais avis de vraies femmes.
Non, non, mais c'est ça. Puis ça t'a sauvé du temps d'écriture. C'est merveilleux.
Exactement, parce que je suis pas du tout... comme je sais pas faire de narrative design. Donc c'était un peu un moyen de tricher. Et puis au moins, je me dis que c'est pas fake. Là, comme c'est vraiment des vraies femmes qui ont dit ça. Donc c'est pas genre un mot tout beau. Genre je fais une fille qui est super belle et puis qui, en fait, elle aime les motos, ben... Si, ça existe vraiment, parce que c'est vraiment une femme qui a dit ça, que je connais, et puis comme c'est presque son personnage à elle.
Il y a quelque chose aussi de très cool de dire, tu prends la personnalité de quelqu'un, tu la mets dans un personnage de jeu, puis elle l'incarne d'une certaine manière, comme ça serait une actrice, mais elle est elle-même finalement, là, donc
exact. C'est
très intéressant. Là, justement, qu'est-ce que ça sous-entend? Bon, comme on l'a dit au début, t'étais plus en UX, là, maintenant, tu te trouves actuellement chez Tribute en qualité de game designer. Est-ce que c'était un but pour toi en partant ou t'es comme tranquillement pas vite tombé dans la profession de game designer parce que tu touchais à ça tranquillement pas vite?
Ben, je pense que n'importe qui finit par étudier dans le jeu vidéo comme a le rêve de travailler dans le game design parce que c'est vraiment comme... En tout cas, moi, je trouve que c'est comme une position super riche où comme tu décides des mécaniques, tu décides comme de comment, quelle expérience le joueur va avoir exactement. Et je trouve que ça peut se rattacher aussi au UX.
Mm-hmm.
Donc, c'était comme un cheminement qui s'est fait assez naturellement. À Tribute, je fais aussi du level design, comme je fais un peu les deux en même temps. C'est le fait quand dans des petites entreprises, tu touches à plusieurs choses. Et c'est vrai que c'est aussi nice là, de pouvoir toucher au game et au level design en même temps. Ça me permet de, comme, de construire mes niveaux et puis de me dire « Ah, ben là, je pourrais mettre comme, tel événement parce que ça collera bien dans la forme de mon niveau, etc. »
OK. Non, c'est ça. Au lieu de converser avec un level designer que peut-être lui, il a son agenda, puis toi, t'as l'été en mécanique. Justement, la transition, est-ce qu'elle s'est bien déroulée? Ou t'as-tu le sentiment de changer de rôle? Ou comme tu disais, non, les bons concepts d'un bon UX sont sûrement applicables à un bon game design aussi? Ouais.
J'ai aussi fait comme un an de game design à Montréal. Mm-hmm. J'avais fait comme une année d'études au DESS à l'Université de Montréal. Et ça m'a fait comme une belle introduction pour vraiment me mettre dedans. Et puis, je pense vraiment que toutes les petites game jams que j'ai fait de mon côté, ça m'a comme vraiment appris à comme réaliser ce que c'est le game design, réaliser à quel point quelque chose qui te paraît simple au début, en fait, c'est vraiment complexe. Et aussi, quand tu fais tes jeux toi-même, tu réalises à quel point une idée qui, de base, te paraît simple, en fait, c'est vraiment plus complexe que ça à faire. Et t'apprends à simplifier, t'apprends à rendre ça plus fluide et à la fois facile à faire et à la fois agréable à jouer. Genre. C'est comme des belles balances à avoir. Et puis les game jams, c'est comme vraiment parfait pour apprendre à faire ça. Je pense que ça s'est fait assez naturellement parce que j'ai quand même pris un an pour étudier là-dedans. Et puis les game jams, ça m'a vraiment appris à comme gérer mon game design pour faire des jeux qui étaient réalistes et qui étaient faisables. Et c'est ça, au final, je suis comme arrivée à Tribute Games. Je pense qu'il y a eu moins d'un an de production de Flintook après que je sois arrivée. Moi, j'ai principalement fait du level design sur Flintook. Et là, je suis en game design et level design sur le nouveau projet de Tribute, que j'aimerais en parler, mais que je ne peux pas.
Un jour.
Je reviendrai, si tu veux. Mais non, c'est ça, Flintook, ça a été super enrichissant. Et là, le nouveau jeu, là, vraiment, comme je me fais vraiment plaisir. Là, j'ai mon boss, Jonathan, qui a fait comme la base du game design et puis qui m'a juste dit « Voilà!
Cool.
Fais la suite! » Et c'est génial, quoi. Comme, moi, je suis sortie de l'école il y a peut-être un peu moins de 2 ans et puis j'ai vraiment enchaîné tout de suite à Tribute. Et c'était fou. Comme, pour moi, Tribute, c'est vraiment un bon studio qui fait des jeux de qualité. Et puis c'est juste comme la bonne taille de studio, là. Ni trop nombreux, ni pas assez. Juste être capable de travailler là-bas direct après mes études, c'était vraiment un rêve. Là. Et puis faire du game design, c'était fou.
Non, définitivement.
Non, c'est vraiment chouette. Là. C'est vraiment enrichissant.
Puis je trouve que tu es dans une très bonne position parce qu'on revient à tes études, tu as quand même étudié dans des domaines que je trouve que les notions peuvent être appliquées partout, qui te donnent des bonnes bases. T'sais, c'est peut-être quelque chose que j'ai eu contre le système au Québec. Pendant un bout, on a eu des écoles en jeux vidéo, mais on formait les gens juste à faire des jeux vidéo. Implémente ça dans Unreal ou dans Unity. Ce que j'aime de ton approche, c'est que toi, tu as vraiment appris les bons fondamentaux du design. Après ça, tu peux appliquer ça au concept d'une boîte de céréales, d'un UX, d'un jeu. Puis après ça, tu as fait du UX, justement, qui est, encore une fois, des très bons fondamentaux du genre essayer de comprendre la réalité de ton utilisateur, essayer de savoir dans quoi ton utilisateur va s'accrocher. Puis là, ensuite, tu vas dans le game design avec cette base-là. Puis à mon avis, c'est très bon. Puis ça va te permettre de peut-être éviter des erreurs que le gars qui étudie juste en design de jeu aurait eues, là.
Ouais, peut-être. Ben après, je veux pas cracher sur les études en game design parce que
je le fais.
Je ne sais pas. Mais non, c'est sûr que apprendre du UX, c'est un gros plus. Et puis c'est vrai qu'on en parlait plus tôt. C'est des fois quelque chose qui manque un peu dans les jeux en général. Donc avoir des gens qui ont des bases en UX, je trouve que c'est vraiment comme ça te permet de créer une expérience peut-être un peu plus riche à la fin.
Là, le monsieur du service veut se débarrasser de nos assets. On va lui donner la chance et passer au prochain segment. Mm-hmm. Sinon, l'autre affaire qui est très intéressante, ton dossier, je trouve qu'il distingue quand même par rapport aux autres développeurs en général dans l'environnement de Montréal, c'est que tu es quand même engagé, notamment ça, dans notre discussion avant l'enregistrement, tu avais dit que tu avais fait quelque chose du côté de Pixel la fin de semaine dernière, d'ailleurs.
Exact. Oui, on a fait un événement qui s'appelle le Ticade.
OK.
Ticade pour T et Arcade. Donc, je pense qu'on comprend le principe. C'est on boit du thé et on joue à des jeux vidéo. Et c'est vraiment un événement que j'ai vraiment aimé organiser. En plus, cette année, la thématique, c'était Magical Girls.
OK.
Donc, on s'est fait plaisir. On a fait vraiment une déco super cute, super rose, super colorée. Et vraiment, l'idée, c'est d'avoir un environnement très féminin et qui va vraiment viser les femmes, mais qui est ouvert à tout le monde. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de parler aux femmes et puis de leur montrer comme vous êtes bienvenue dans un événement de jeux vidéo. Et ça, c'était d'autant plus intéressant qu'on a essayé vraiment d'être kids-friendly. Là, on avait prévu comme des tables de coloriage pour les enfants. On avait un booth pour prendre des photos avec des accessoires. Comme c'était vraiment mignon. Là. Et puis, on a plusieurs enfants qui sont passés. Comme c'est la troisième fois qu'on fait un Ticade. Et c'était, je pense, on a eu entre 10 et 15 enfants. C'était la première fois qu'on avait autant d'enfants. Là. Donc, on est content. On travaille fort pour continuer là-dedans.
On a mentionné Pixel, justement. Pourrais-tu en parler un peu?
Oui, ben ça commence doucement à se faire connaître. Puis ça commence aussi à avoir de l'effet, moi, je trouve, sur Montréal. Oui. Pixel, en fait, c'est une organisation bénévole, à but non lucratif, dont le but est d'encourager les femmes à faire des jeux vidéo et à les aider à rentrer dans cette industrie et dans cette communauté du jeu vidéo, en faisant notamment des événements comme le Ticade, mais aussi elles font un incubateur. L'incubateur, en fait, c'est comme ça que moi, j'ai connu les Pixel. Il y a déjà 4 ans, mon Dieu. Et en fait, le concept de l'incubateur, c'est en 6 semaines, tu fais ton propre jeu, toute seule. Et tu fais tout. Tu fais l'art, tu fais la programmation, entre guillemets, parce que tu utilises des logiciels qui demandent comme pas forcément de la programmation en tant que telle, mais quelque chose un peu simplifié. Tu fais du son, tu fais ton playtest à la fin. Il y a même une petite présentation à la fin où les gens viennent et puis testent ton jeu. Comme, c'est vraiment très complet. Et puis, 6 semaines, c'est intense, là. C'est rapide cette semaine quand tu fais un jeu. Et puis, c'est des séances de 3 heures à chaque semaine.
Okay.
Justement, j'en parle parce que le nouvel incubateur est sur le point de rentrer. Comme vous pouvez déjà aller sur le site internet. Attention, placement pub. Vous pouvez déjà aller sur le site internet pixels.ca pour justement poser votre
candidature.
Candidature, oui, excuse. Et pour participer à l'incubateur. En général, on sélectionne 10 femmes ou des personnes qui s'identifient comme femmes. Et ces 10 personnes-là vont faire un jeu sur les 6 semaines avec des séances à 3 heures par semaine en étant suivies. Mais il y a aussi le Follow Along, qui est un programme en fait où n'importe qui, peu importe leur identité, peuvent venir. Et c'est exactement la même chose. Elles ont aussi ces 6 semaines-là, elles font un jeu de leur côté. Et tous les samedis, il y a un suivi avec des mentors. Il peut aussi y avoir un suivi par mail si vous n'êtes pas sur Montréal. Donc c'est vraiment pour motiver le plus de monde possible à faire un jeu en 6 semaines, pas forcément juste des femmes, même si l'incubateur en tant que tel va sélectionner juste des femmes, mais tout le follow along, c'est ouvert à tout le monde. Et moi, personnellement, quand je l'avais fait, j'ai trouvé ça tellement enrichissant. Comme faire un jeu vidéo, ça fait peur, surtout faire un jeu vidéo tout seul. Et la programmation, surtout, ça fait vraiment peur. Et Pixel insiste vraiment beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas besoin de savoir programmer. Et c'est ça, elles vont... c'est vraiment pas des cours, c'est vraiment plus comme motiver les gens, avoir cette espèce de petite réunion où comme tout le monde se dit où il en est dans son cheminement pour faire son jeu. Après, il y a comme les deux responsables. Moi, à l'époque, c'était Tania et Rebecca qui sont les deux cofondatrices de Pixel. Elles étaient vraiment là comme pour nous soutenir. Et puis, si jamais on était vraiment bloqués, elles nous aidaient. Mais vraiment, leur but, c'était pas de faire un autre jeu à notre place. C'était vraiment de nous donner des buts et d'avancer, de nous forcer un peu à avancer dans le jeu. Et non, c'était une expérience incroyable. Et puis, c'est vrai qu'à la fin des 6 semaines, t'as fait ton jeu et puis t'es super fière de toi. Et je sais que la plupart des filles qui sont passées par Pixel aujourd'hui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Elles avaient fait aussi un incubateur d'écriture où c'était vraiment plus basé sur écrire la narration, faire des jeux, mais vraiment plus narratif en utilisant Twine, par exemple. Et ça, je pense, peut-être 90% des filles qui vont là-bas travaillent aujourd'hui dans l'industrie en narrative design. Comme c'est vraiment fou. Et puis moi, je suis convaincue que Pixel comme aide à multiplier le nombre de femmes qu'on trouve dans l'industrie aujourd'hui. Là. Comme la plupart des filles que je vois qui travaillent ou qui étudient dans le jeu vidéo autour de moi, connaissent Pixel ont fait au moins un des ateliers de Pixel. Parce que Pixel fait aussi des ateliers.
Oui.
À tous les mois, sur plein de sujets différents. Pareil, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça. Parfois, c'est 3D, parfois, c'est programmation, parfois, c'est un logiciel de programmation particulier. Parfois, ça va être des choses plus précises, comme des shaders ou des choses comme ça. Et à chaque fois, il y a un mentor qui vient et puis qui donne un cours. Ça dure, je pense, 1 ou 2 heures.
Quand même.
Et c'est ça. Pendant... À chaque mois, t'as ça. C'est Rebecca qui organise ça. Et c'est vraiment cool.
Non, c'est moi, juste le fait que tu dis que la majorité des filles qui ont passé là-dedans se sont trouvées un boulot dans le jeu vidéo, c'est vraiment remarquable en termes de avant-après. Justement, ma question, c'est quel est le profil des filles? Il faut faire attention parce que là, j'imagine que c'est pas tout le temps le même style de personne qui rentre, mais je veux dire, y a-t-il des points communs dans les filles qui attaquent justement Pixel pour ensuite rentrer dans l'industrie de jeu?
Même pas, en fait, parce que moi, je vois l'année où j'avais fait les Pixels, il y avait vraiment de tous les âges, de toutes les origines. On avait même différentes identités, comme il y avait aussi bien des cis que des trans que des queer, comme c'est vraiment varié. Et puis, c'est ça qui est beau dans Pixel, c'est que ça te fait découvrir comme la diversité de la communauté, là, que c'est pas juste des hommes blancs.
Ah non!
Et non.
C'est bizarre, j'aurais eu tendance à croire ça, mais bon, regardons. Non, mais
c'est ça, et puis c'est super beau comme Pixel amène la diversité, et puis ils sont vraiment forts à ça, parce que même si tout le monde peut venir à leurs événements, ils tendent tellement la main aux femmes que il y a beaucoup de gens qui ne viendraient pas à d'autres événements, mais qui vont venir à des événements comme TKade. Aussi, là, on est sur le point d'organiser notre voyage au GDC.
Oh là là.
C'est pour la 3e année, on organise ça s'appelle Ensemble au GDC. Pareil, c'est en ce moment, vous pouvez aller sur notre site internet. Et
si on sera en vidéo actuellement, il y aura un message qui déroulera en bas de l'écran.
C'est ça, genre cliquez là. Mais pareil, comme si vous identifiez comme une femme, vous pouvez postuler à Pixel, éventuellement avoir un pass tout accès pour le GDC. On est en partenariat avec GDC Scholarship et ils nous donnent de souvenirs, c'est 20 passes. Tout accès, et nous on les redistribue donc à des femmes et puis à des gens qui en ont besoin pour aller au GDC, qui n'ont pas forcément les moyens. Cette année, on essaye de plus viser des gens qui ont de l'expérience dans les jeux vidéo, qui ont minimum 3 ans d'expérience, mais tout confondu, que ce soit des stages, que ce soit du travail en bénévole, que ce soit vraiment comme du travail dans une entreprise en tant que telle. Donc c'est ça. On essaye d'avoir un peu moins d'étudiants, puisqu'il y a déjà beaucoup de programmes pour aller au GDC pour les étudiants qui existent. Donc là, on essaye de booster un peu plus pour les autres.
Non, c'est ça. Je regarde qu'est-ce qui est fait du côté de Pixel, puis je trouve ça remarquable aussi parce que ça donne juste des exemples très forts. Tu parlais de l'événement organisé en fin de semaine, de dire non, il y a une pensée vraiment pour que ça soit particulièrement intéressant pour les femmes, peut-être potentiellement même des personnes en famille, et ainsi de suite. Je trouve ça bien de fournir ces exemples-là. Même chose, les ateliers, le tutorat, tout ça, c'est vraiment bien fait. Ça fait un bout que t'es à Montréal, ça fait un bout que t'es dans la scène du jeu vidéo. As-tu le sentiment que les autres événements au-delà de ce Pixel, justement, font les efforts nécessaires pour être de plus en plus inclusifs, pour attirer les gens, ou encore une fois, on est dans le statu quo et Pixel est pertinent parce que ça donne une espèce d'exemple sur vers où tendre?
Ben, je pense que c'est correct que les autres événements fassent pas forcément exactement pareil, puisque Pixel, justement, a le but comme d'attirer plus les femmes, mais c'est aussi correct que les autres événements fassent autre chose. Ben, en fait, je suis aussi co-organisatrice des événements du MRGS. MRGS, c'est la Société ludique du Mont-Royal. Avant, on organisait des soirées sociales tous les mois, mais maintenant, on organise ce qui s'appelle les Art Up tous les 3 mois. Et ça, en fait, on essaye justement aussi d'élargir, comme on essaye d'avoir comme une diversité de personnes au maximum qui viennent à nos événements. Pour ça, on ne vise pas seulement du jeu vidéo. Comme le Art Up, ça vise vraiment plus n'importe quel milieu créatif. Donc, par exemple, en fait, nos événements, c'est 3 mini-conférences de 20 minutes chacune avec période de questions. Et on fait venir vraiment des gens de tous les milieux. On a des écrivains, on a des musiciens, on a aussi des gens qui travaillent en jeux vidéo, forcément. On a des artistes peintres ou alors digital. On essaie vraiment d'avoir comme une variété de milieux créatifs. Et puis, c'est vrai qu'on a vu que ça a un peu aidé à diversifier un peu le crowd qui vient au Art Up. Mais c'est vrai que c'est difficile. Non? Et puis, que ce soit le MRGS ou les Pixels, on appuie fort notre politique d'espace sécuritaire, puisque c'est triste à dire, mais il y en a vraiment besoin.
Consiste en quoi, peut-être, les gens qui sont moins familiers avec ça?
Alors, la politique d'espace sécuritaire, en fait, c'est une politique qui est là pour dire que c'est interdit à partir du moment qu'on vient à nos événements de faire preuve de discrimination ou de faire preuve de comportement comme...
Être lourd, là.
C'est ça, exactement. Et puis, ben, c'est triste à dire, mais les soirées de jeux vidéo, quand il y a des filles, c'est quand même assez fréquent que les filles se fassent comme harceler ou... à différents niveaux, là, mais ça arrive fréquemment. Et puis, quand on a des plaintes à propos de ça, comme on se sent vraiment bête parce qu'on était là et puis on ne l'a pas vu.
Ouais.
Donc, on essaye vraiment de surveiller au maximum. Et puis, s'il y a des gens qui ne veulent pas respecter ça, on leur dit de partir. Et
l'idée d'une politique de même, ça aide vraiment carte sur table de dire « OK, si tu viens un soir, ça c'est règle de fonctionnement.
Exactement.
Si tu fais ton malaisant de service auprès d'une fille, ça se peut qu'on te sorte. »
C'est exactement ça, comme le Hard Top. On est un peu ennuyant avec ça, parce qu'à chaque début de soirée, on rappelle notre politique, mais c'est parce qu'on y tient vraiment fort, là, et puis c'est important pour nous de dire, comme, si tu viens à nos événements, comme, tu respectes cette politique-là.
On ne peut pas avoir un contrat signé à l'entrée, on n'a pas de même.
Ça serait drôle, ouais, mais... Non, on n'en est pas rendu à ce point-là, mais en tout cas, on aime bien faire le petit rappel, et puis ça sert à la fois pour que les gens, comme, soient, comme, au courant que... Chez nous, ça se passe comme ça. Et en même temps, ça permet aux gens... peut-être qui auraient peur de se faire harceler ou quoi, d'être rassurés, puisque comme nous, on dit aussi, nous, en tant qu'organisateurs, on est là comme pour vous backer si jamais il se passe quoi que ce soit. Et c'est ça. Donc, MRGS et Pixel travaillent fort là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres... la Guilde, par exemple, a fait aussi récemment une annonce en disant qu'ils allaient faire plus d'efforts là-dessus aussi, parce que c'était pas forcément quelque chose sur lequel ils étaient penchés avant. Et puis là, ils ont l'air de vraiment pencher dessus. Puis je trouve ça vraiment chouette. Hein. Comme il faudrait que tout le monde fasse ça. Hein.
Non, définitivement. Parce que c'est un peu bizarre à dire de même, mais bon, si je regarde il y a 2-3 ans, c'est quelque chose qui n'existait pas. Puis je vais être honnête avec toi, je suis un homme blanc de 30 ans, c'est pas l'affaire que tu penserais naturellement, mais c'est effectivement, en plus, en parlant avec ta copine ou en parlant à d'autres personnes dans l'industrie de jeu, des fois, tu te rends compte que, bon, il y a des comportements un peu louches qui sont tolérés par défaut. Puis...
Ah, mais oui, hein. C'est fou comme... Des fois, ça se passe à côté de moi et puis je m'en rends pas compte. Et puis, il y a juste quelqu'un qui va venir te parler par après. Bah là, ce gars-là, comme, il a vraiment été très, très insistant avec moi. C'était gênant. Et puis, t'es comme, ah, bah, désolé, comme, j'aurais dû voir ça. Et puis, c'est pas normal. Et puis, ça devrait pas arriver. Et puis, c'est triste que les gens, ils pensent que parce qu'il y a une fille qui est là, et ben, il faut soit aller la draguer, soit il faut aller, comme, être sûr qu'elle est vraiment fan de jeux vidéo et qu'elle a le droit d'être là, là. Comme le nombre de fois que des filles comme se font comme juste questionner pour être sûres que elles sont à leur place. Ah oui, mon Dieu, ça c'est vraiment triste.
Okay.
Des gens qui se font se faire un interrogatoire juste pour être sûr que...
Voyons donc.
Est-ce que tu aimes vraiment les jeux vidéo? Est-ce que tu t'y connais vraiment? J'avais une amie qui avait fait une conférence dans un événement de jeux vidéo et puis il y avait quelqu'un qui posait des questions juste pour être sûr comme... qu'elle savait de quoi elle parlait.
Mais c'est terrible.
Mais mon Dieu, oui, c'est comme, c'est vraiment triste, non? Et puis c'est trop ordinaire, tristement.
Ouais. Ouais.
Donc, ouais, je trouve que d'avoir des organisations qui appuient là-dessus et puis qui disent ça existe, c'est pas normal, et puis nous, comme, on tolère pas ça, comme, ça peut paraître pas fun pour les gens qui sont pas habitués à ça, mais comme, au moins, ça dit que ça existe et puis que c'est là, et puis que nous, on défend ça. Là.
Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, mais la réflexion aussi, c'est de dire, ben, si on insiste suffisamment, mettons, pendant les 5 prochaines années, peut-être la nouvelle normalité, ça sera plus d'avoir ces comportements malaisants-là, puis peut-être dans un futur, effectivement, on n'aura pas à dire à chaque événement, nous voulons aussi ça, et ainsi de suite.
Exactement.
Parce qu'effectivement, je pense que, comme tu disais toi-même, tu as donné un exemple, des fois, il y a peut-être des comportements même qui se passent à côté de toi, puis tu ne te remarques pas, fait que c'est peut-être justement déguiser nos sens pour commencer à spotter ça, dire, c'est peut-être malaisant, tu devrais éviter ça,
oui,
mon ami, puis...
Mais déjà, je trouve que ça commence à bouger un peu. C'est comme l'événement du Gamergate qui a déjà 2 ans, je pense.
Oui.
C'est comme, ça a tellement fait parler, ça a tellement créé des situations incroyables et puis vraiment révoltantes que je pense que les gens qui prenaient pas forcément position avant comme commencent à voir, oh mon Dieu, il y a des gens comme ça qui existent, c'est grave. Donc, les gens qui prenaient pas forcément position avant commencent à prendre position maintenant, donc... Ça, c'est désagréable, mais je pense qu'il fallait que ce soit désagréable pour que ça commence à bouger. Là, et puis, ça avance doucement. Puis, en tout cas, il y a quand même des super nice organisations à Montréal qui aident à faire bouger les choses. Là. Pixel, moi, je les trouve incroyables. C'est vraiment génial, tout ce qu'elles font.
Non, c'est bien. Puis, je m'attendrais que ce type d'organisation-là apparaisse aussi dans tous les autres pôles de développement. Ça serait super important parce que, bon, on regarde aussi l'offre de jeux vidéo en général. La présence des femmes, d'abord, est encore...
c'est ouais, assez bas.
C'est encore un léger pourcentage.
Puis ça paraît dans les jeux ensuite, c'est ça le problème oui. aussi. Puis tu sais, on pourrait dire ça même au niveau des représentations ethniques aussi. Tu sais, je veux dire, tu regardes le jeu d'action typique qui vient de l'Occident, ça risque d'être un gros gars baraqué blanc qui tire sur des méchants. Là. Puis je parlerai même pas des méchants, des fois il y a des trucs révoltants qui se passent oui. ce front-là. Sinon, bon, on a beaucoup, beaucoup parlé de jeux vidéo. À l'extérieur de ça, tu as d'autres champs d'intérêt ou...
La culture japonaise, beaucoup?
Oui, oui, non.
Les Magic
ouais,
Orgas?
Oui.
J'aime beaucoup les Magic Orgas. Est-ce que c'est weird de dire ça?
Non, non, mais absolument pas.
Mais non, c'est ça. Je suis assez fascinée par la culture japonaise. Comme je suis très fan de plusieurs groupes japonais. Puis je suis fascinée par les Magic Orgas aussi. Là, comme je suis une grande fan de Sailor Moon, Sakura, tout ça. Là, comme, il va y avoir un reboot de la série Sakura. C'est incroyable. Et j'ai vraiment hâte.
Ça vient d'où, ça?
Sailor Moon et Sakura, c'est mon enfance. Là. C'est comme les mangas des années 90 qui étaient très, très bien animés quand oui. tu les vois maintenant. Hein. Surtout Sakura, là, c'est incroyable. J'ai regardé les épisodes il n'y a pas longtemps et puis l'animation est folle. Quand elle invoque des cartes, il y a comme des bouts de fumée dans tous les sens. C'était comme, ça a dû être long à faire. Mais non, c'est ça, c'est vraiment comme mon enfance. Et puis c'est vrai que ça a comme... eu un regain d'intérêt récemment, je trouve, Sailor Moon. Donc, c'est comme vraiment facile de trouver plein de choses de ça et puis ça me rend vraiment heureuse. Et je pense aussi qu'il y a un côté de... C'est très féminin, donc ça aide aussi à affirmer sa féminité. Comme c'est quelque chose que moi, dans mes études, j'ai très, très peu fait parce que j'ai fait des études plus techniques, donc j'étais quand même la seule fille ou rarement... comme je pense le plus que j'étais dans une classe de 30, c'était comme 4 filles. Tu sais, comme, c'est vraiment un milieu très masculin et puis c'est pas un milieu comme j'aurais été à l'aise de dire moi j'aime Sailor Moon et je fais ma vie en rose. Genre, donc c'est vrai que j'ai l'impression de me rattraper aujourd'hui par rapport à ça, mm-hmm. comme j'affirme beaucoup plus ma féminité et puis j'affirme beaucoup plus que j'aime les choses cute et je trouve que c'est vraiment nice comme des jeux qui arrivent à s'inspirer de ça et puis à faire ressentir ça, c'est vraiment génial là.
J'ai tendance à croire que c'est un truc qui a s'améliorer parce que c'est peut-être ma lecture bizarre de la chose, mais tu sais, avant, tu aurais parlé du cosplay il y a 10 ans, le monde aurait trouvé ça comme il est donc bien malade de s'habiller de même. Tu sais, que le monde qui ont des trucs maintenant qui ressemblent à des animaux, tout ça, je trouve que certaines personnes diraient un relâchement, mais je trouve qu'il y a une certaine aisance à s'affirmer à travers ça, de dire moi j'aime ça, tu sais. Même exemple pour moi, que j'aurais été au secondaire, au lycée, j'aurais porté genre un T-shirt de Mickey Mouse, le monde aurait fait « Patrick, t'as 14 ans, 15 ans, t'es un homme, affirme-toi. » Je crois que maintenant, c'est plus facile. D'un sens, je trouve ça bien qu'il y a une espèce de libération. Tu t'assumes, t'adores Sailor Moon, peut-être quelqu'un d'autre aime un autre jeu, il s'assume. T'sais, mettons, il aime Overwatch, fait qu'il y a tous ces trucs d'Overwatch, et ainsi de suite.
Je pense aussi qu'aujourd'hui, le nerd est un peu plus cool qu'avant.
Oui, c'est vrai.
Comme maintenant, tu portes des T-shirts de jeux vidéo ou de dessins animés ou quoi, c'est comme « c'est nice ». Quand j'étais ado, c'était un peu ringard et c'était un peu mal vu. Genre. Mais maintenant, comme, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus ouvert à ça. Là. Comme quelqu'un qui porte un t-shirt Mickey Mouse, maintenant, c'est comme « Ah, oh, il est trop cool! » Mais c'est vrai que, comme tu disais, là, comme j'ai comme des flashbacks de comme, quelqu'un qui porte un t-shirt Mickey Mouse.
Un homme qui porte un t-shirt de Mickey Mouse, tu sais qu'il veut faire quelque chose de bizarre. Là,
ouais, c'est ça. Comme quand j'étais vraiment plus jeune, c'était comme non, c'est bizarre, c'est pas nice. C'est comme ah, c'est ta mère qui t'a acheté ça. Là, genre. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ah, c'est cool, il est nice en t-shirt. Puis, ouais, c'est comme une évolution des choses et puis dans le bon sens. Là.
On est sur le bord de terminer, donc on va parler du futur. C'est quoi tes plans futurs? As-tu des projets en tête? Est-ce que tu voudrais compléter justement un projet finalement avec ton conjoint? Ou...
Peut-être, je ne sais pas. Ben, j'en ai quand même complété un.
Non, c'est vrai, on fait des blagues. Mais...
récemment. Non, c'est ça, j'ai quand même fait une application sur iPhone récemment.
Vas-y, blog, vas-y.
Ça s'appelle Toya Yubi et c'est un petit jeu très, très simple. Il faut juste comme appuyer sur un rond avec son pouce. Mm-hmm. Et c'est un jeu très frustrant, très difficile à jouer, mais si vous voulez essayer, en tout cas. Et mes plans futurs, c'est que pour l'instant, je suis très, très contente du projet sur lequel je travaille actuellement, Attribute. Mm-hmm. Et puis, c'est quand même parti pour être un gros projet de plusieurs années.
OK, quand même.
Donc, à peu près 2 ans. Donc, je pense que je suis partie pour un bon moment à travailler là-dessus. Et puis, j'ai vraiment beaucoup de fun à travailler là-dessus. Après, éventuellement, c'est vrai que moi, j'aimerais continuer un peu à faire des jeux de mon côté. Mm-hmm. Et bien sûr, continuer à faire des événements avec le MRGS puis avec les Pixels parce que c'est vraiment des organismes que j'aime vraiment beaucoup et puis qui ont un but vraiment nice. Alors, je vais les encourager et puis aider à organiser. Et puis, c'est pas mal ça, continuer à faire des jeux. Mm-hmm. Puis...
Voilà.
Très, très. Acheter la marchandise de Sennermonde.
Ah, ben oui. Ben, j'en ai déjà plein, là. Quand j'ai un appartement rempli de jouets. C'est malsain.
Oh là là. Non, mais si t'es bien là-dedans, c'est ça l'important?
Oui, exactement.
Je sais pas pour ton conjoint, mais si toi, tu es bien là-dedans.
Si, il aime bien aussi, ça va, on s'est bien trouvé.
Très bien. Un gros merci à toi, Marion. Ça a été vraiment cool.
Ah, ben merci de m'avoir reçu.
Donc oui, nous sommes de retour dans mon fantastique appartement à Montréal. Donc, qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié de cette conversation-là avec Marion, c'est vraiment le segment de fin. On a senti vraiment l'intensité de son être à travers sa mission, justement, d'engager les femmes dans le jeu vidéo. C'est très important. J'ai l'impression et j'ai tendance à croire qu'on a une petite longueur à Montréal par rapport au reste du monde là-dessus. Donc, d'un sens, j'en suis très fier, mais comme on en a discuté, la bataille est loin d'être gagnée. Et je crois que du côté de Pixel, autant que d'autres initiatives nous avons discutées comme Girls on Games, il y a vraiment des solutions intéressantes. Je crois beaucoup à l'idée de présenter des modèles forts d'organisation inclusive, d'organisation sérieuse dans ces démarches-là. Et je crois que nous avons deux fleurons de ça à Montréal. Et ma foi, j'en suis très fier. C'est aussi très intéressant cette partie-là qu'on discutait à la fin au niveau d'assumer ses passions, assumer ce qu'on aime, l'afficher, tout ça. Je crois que c'est une belle clé de notre époque. Les tendances sont en train de changer. En tant qu'adulte maintenant, comme on l'a mentionné, je suis capable de porter un chandail de Mickey Mouse en public sans avoir l'air d'un personnage malaisant. Donc, c'est très cool. Sinon, l'autre belle partie de son cheminement personnellement et qu'on voit pas tout le temps en jeu vidéo, mais commence à se manifester de plus en plus ainsi que dans d'autres emplois, c'est que du côté de Marion, il n'y avait aucune hésitation pour affirmer vraiment qu'elle aimait le jeu vidéo, qu'elle voulait tendre à la conception. Donc, je trouve ça très bien, assez tôt dans son cheminement, qu'elle a fait « Oui, OK, j'assure en expérience utilisateur, les gens apprécient mon boulot, mais la conception m'intéresse, donc je vais essayer de mettre des efforts et changer et prendre ce cap-là. » Donc, en ce sens-là, c'est vraiment tout à son honneur de reconnaître ce qu'elle aime et vers où elle voulait aller. Sinon, je dois avouer que j'ai quand même été conquis vraiment par sa défense de tout ce qui est expérience utilisateur dans les jeux. Vous l'avez sûrement remarqué, je suis du même avis d'elle. Souvent, c'est un aspect qui est délaissé dans les produits finaux, mais pour être à l'interne des fois, pour être dans les développements, c'est un aspect qui nécessite beaucoup de négociations, de combats parfois, pour que ça soit valorisé, pour que ça soit considéré. Donc, en tout cas, pour moi, de mon côté, le message de Marion résonnait et j'espère que ça va résonner aussi de votre côté. Donc, d'une certaine manière, je vais vous avouer que si vous êtes des consommateurs, des consommatrices de jeux, c'est peut-être un appel à être un peu plus critique, de porter attention à ce type de détails-là et de manifester quand c'est faiblard ou quand c'est mal fait auprès des développeurs, ça va probablement leur donner un grand coup de main. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur Marion, c'est assez simple. Il y a trois destinations que je peux vous recommander. Tout d'abord, destination assez évidente, c'est le marionestian.com. Utilisez son nom, compressez ça dans le même pain de lettres, mettez un point com à la fin et vous allez avoir l'adresse du site. Sinon, comme on l'a mentionné au début de l'épisode et pendant l'épisode, Marion travaille chez Tributes Game. Donc, vous pouvez aller au tributesgame.com. Vous allez découvrir Flint Hook, le jeu sur lequel elle a travaillé, mais aussi potentiellement qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir pour Tribute. Finalement, Marion est bien évidemment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez chercher l'indicateur A commercial MAYHOW, donc Mayhow, et vous risquez de trouver le contenu de Marion. Donc, comme j'avais mentionné, elle s'intéresse beaucoup au domaine artistique. Elle a aussi un passé dans le design, donc vous allez voir, ses publications reflètent ça. Ça vaut définitivement la peine. D'ailleurs, parlant de promotion, parlant de site web, parlant de réseaux sociaux, c'est ma partie, c'est mon moment pour faire la promotion de tout ce qui est Poutine à deux, Radio Kawa et compagnie. D'abord, si vous écoutez cette émission-là via le site de Radio Kawa, je vous apprends en disant qu'il y a une possibilité de s'abonner à Poutine à deux et c'est assez simple. Vous pouvez d'abord utiliser le fil RSS qui est disponible sur le site de Radio Kawa ou chercher tout simplement Poutine à deux sur Apple Podcasts. Vous allez nous trouver. Poutine à deux est bien évidemment présent sur les réseaux sociaux. Cherchez l'identifiant Poutine à deux, donc P-O-U-T-I-N-E-A-D-E-U-X. Et cet identifiant-là, c'est magique, fonctionne tout autant sur Facebook que Twitter. De cette manière-là, vous allez nous trouver. À quoi peut-on s'attendre? Bien évidemment, les annonces des nouveaux épisodes de Poutine à deux, mais de temps en temps, nous aimons bien vous consulter à propos des sujets de discussion que nous devrions avoir pendant notre repas. Aussi, de temps en temps, on fait des petits trucs amusants comme demander quel jeu croyez-vous jouer cette semaine, ainsi de suite. Donc, si vous voulez avoir un sentiment de qui est la communauté qui écoute Poutine à deux, c'est une très bonne idée de joindre nos comptes sociaux. Si vous avez aimé cet épisode-là de Poutine à deux, le petit coup de main que je pourrais vous demander, c'est tout simplement de laisser des notes et des commentaires du côté d'Apple Podcasts. Une note de 5 étoiles, autant possible, vous aimez le produit. Si vous aimez le produit au-dessus de 5 étoiles, je serais d'ailleurs intéressé d'avoir vos retours. Donc, je vous invite peut-être à justement utiliser les médias sociaux pour nous donner des retours. Mais dans l'éventualité où vous avez vraiment aimé, s'il vous plaît, laissez 5 étoiles. Et si vous voulez laisser des commentaires positifs ou négatifs sur Apple Podcasts, on l'apprécie, on lit tous les commentaires pour sûr. On parle de commentaires d'ailleurs, si vous êtes un utilisateur, une utilisatrice du site de Radio Kawa, encore une fois, laissez des commentaires, on va les lire, on va y répondre. Pour être très honnête, j'ai été un peu tardif sur les premiers épisodes, mais là, je suis pleinement disponible, toute mon attention est dirigée vers vos commentaires. Dans l'éventualité où vous n'aimez pas attendre 2 semaines pour avoir du nouveau contenu Poutine à deux, il y a peut-être une autre solution, oui. Donc, moi ainsi que Grégory, c'est-à-dire le gars qui n'est pas là ce soir, clin d'œil, nous tenons aussi une autre émission, un autre podcast qui se nomme cette fois-ci « Les jeux sont faits ». Encore une fois, on approche le jeu vidéo avec un angle de développeur, mais cette fois-ci, nous causons tout simplement de l'actualité du jeu vidéo. Donc, si vous aimez suivre l'actualité du jeu vidéo, mais que vous aimeriez peut-être avoir un regard un peu en marge de que tout le reste de l'industrie médiatique du jeu vidéo, ça vaudrait peut-être la peine d'écouter « Les jeux sont faits ». Et l'horaire de diffusion de « Les jeux sont faits » est assez simple. La semaine qu'il n'y a pas un épisode de Poutine à deux, il y a un épisode de « Les jeux sont faits ». Donc, si vous voulez retrouver « Les jeux sont faits », c'est assez simple. Cherchez « Les jeux sont faits » sur Apple Podcasts, Google Play Music, ainsi que YouTube. Allons-y avec les crédits de fin. Donc, j'aimerais remercier d'abord Benji Pes qui s'est occupé de l'identité sonore de ce merveilleux épisode. J'aimerais aussi remercier Julien Bro pour tout ce qui est identité visuelle de Poutine à deux. Et bon, moi, Patrick Tellen, votre humble serviteur, je me suis occupé de l'animation ainsi que de la production. Et maintenant, afin de terminer en beauté, j'aimerais vous proposer quelques bandes-annonces des délectables émissions de Radio Kawa. Donc, sur ce, on se dit à dans 2 semaines. Au revoir.
Connaissez-vous ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou,
c'est moi,
dissèque un élément d'un jeu vidéo,
un signe vidéoludique,
et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid,
le score dans le premier Mega Man,
le choix dans The Stanley Parable,
la difficulté à rebours dans Braid.
Autant de raisons d'écouter Ludographie comparée sur Radio Kawa.
Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir Les Pressés de l'Expression. C'est le podcast Travail et Langue Française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce ? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.